Le second tour des élections municipales dans 25 communes de Nouvelle-Calédonie. Les bureaux de vote ouvriront dans une heure. Un peu plus de 200 000 électeurs appelés aux urnes pour renouveler les conseils municipaux. La mise en place par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'un corridor sanitaire aérien entre la Grande Terre et les Loyautés. Il s'agit d'assurer la continuité des soins pour les patients à des îles. À la fin de 8 jours de poker non-stop au Grand Casino de Nouméa, le festival Nouméa Poker Series s'est achevé hier soir. Près de 200 joueurs étaient en lice dans les tournois principaux. La guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa quatrième semaine. Ces dernières heures, des sites d'installation nucléaire ont été visés en Iran, mais aussi en Israël. Le trafic maritime toujours à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz. 20 pays dont la France, le Royaume-Uni et le Japon se disent prêts à participer aux efforts pour rétablir la circulation dans le détroit. Et puis le sport et le rugby, 19e journée du championnat de France du top 14. Montpellier se hisse en deuxième position au classement après son succès cette nuit sur Clermont, 20 à 17. Bonjour, excellent dimanche et soyez les bienvenus dans ce journal. Nous sommes le dimanche 22 de mars et c'est jour d'élection donc en Nouvelle-Calédonie. Les électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les conseils municipaux. Il s'agit du deuxième tour des élections municipales dans 25 communes du territoire. Dans les 8 autres, Belep, Moindou, Saraméa, Farino, Yaté, Touo, Yengen et Lifou. Le scrutin, vous le savez, s'est joué dès le premier tour, c'était la semaine dernière. Ce ne sont donc plus 220 624 électeurs qui sont appelés à voter aujourd'hui, mais 200 130. Ils sont encore 149 517 inscrits en province sud, dont 68 860 électeurs inscrits à Nouméa, 39 096 en province nord et 11 517 dans la province des îles. Et les bureaux de vote seront ouverts ce dimanche, Michael Juneski, de 8h à 18h.
Et pour les élections municipales, il n'y a pas de corps électoral spécial. Tout le monde peut voter, à condition bien sûr d'être inscrit sur la liste électorale générale. Pour voter, n'oubliez pas quelques consignes simples. Vous devez vous présenter au bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit avec votre carte d'électeur, même si elle n'est pas obligatoire, mais surtout avec une pièce d'identité qui peut être soit votre carte nationale d'identité, votre passeport, votre permis de conduire ou une carte de combattant.
Rappelons, Mickaël, que dans certaines communes, les bureaux de vote ont été regroupés.
Ouais, c'est le cas à Nouméa, où les 56 bureaux de vote ont été regroupés dans 8 sites différents, et aussi à Païta, où les 19 bureaux de vote ont été regroupés sur 6 sites différents. Pas de regroupement au Mont d'Or. Le seul changement concerne les habitants de Lillouin. Leur bureau de vote a été fermé. Ils sont invités à voter dans un bureau de vote du groupe scolaire de Ploum. La mairie a mis en place des navettes maritimes gratuites pour permettre aux électeurs de Lillouin de se rendre dans leur bureau de vote. Pas de regroupement non plus à Dimbéa, mais l'école Minguet, le groupe scolaire Les Orangers et le studio 56 ayant été détruits ou dégradés. Les 6 bureaux de vote qu'ils accueillent habituellement ont été déplacés à la salle Omnisport d'Auteuil.
Et rappelons que c'est un scrutin de liste, ce qui signifie que les sièges sont répartis dans les conseils municipaux entre les listes à la répartition proportionnelle avec prime majoritaire de 50% des sièges attribués à la liste arrivée en tête. Les listes qui n'ont pas obtenu 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. 81 listes seront en présence sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie avec un record de 5 listes. Ce sera à Dimbéa et à Koumac. À l'inverse, il n'y aura que 2 listes à Canala, La Foy, Pouébo et Poum. Et puis bien sûr, comme pour chaque élection, toutes les équipes de Radio Rythme Bleu seront mobilisées tout au long de cette journée pour vous faire vivre le scrutin au plus près.
Notre dispositif est en place pour que vous soyez les premiers et les mieux informés avec nos cellules de collecte de la participation et des résultats et notre cellule informatique. Nous vous donnerons les taux de participation à 11h et 16h. Et dès 18h30-19h, nous débuterons notre grande soirée électorale avec les premiers résultats très rapidement, bureau de vote par bureau de vote, puis commune par commune. Des résultats à retrouver également sur notre site internet et sur la page Facebook de RRB avec un Facebook Live. Nous serons toute la soirée en compagnie de notre consultant Ismet Kurtovic pour commenter, décrypter les résultats et dès que possible, vous pourrez entendre les premières réactions des différents candidats.
Et rendez-vous donc ce soir aux alentours de 18h30-19h pour notre grande soirée électorale spéciale municipale 2026. Rappelons qu'hier s'est tenu à Moindou le premier conseil municipal de la nouvelle mandature. C'est Joe Perronnet qui a été élu maire. Il a entamé un quatrième mandat consécutif à la tête de la commune. Ce matin, c'est le nouveau conseil municipal de Saraméa qui se réunira pour élire le maire et ses adjoints. Conseil municipal qui se tiendra à partir de 9h. Dans l'actualité de ce dimanche matin également, la mise en place par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'un corridor sanitaire aérien entre la Grande Terre et les Loyautés. Il s'agit, alors que les aérodromes des îles et de l'île des Pins sont bloqués depuis le 2 mars dernier, d'assurer la continuité des soins pour les patients qui nécessitent une prise en charge spécialisée à Nouméa, Michael.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, via sa direction des affaires sanitaires et sociales, a recensé 110 patients à transférer à Nouméa et une vingtaine de personnels soignants à transférer sur la Grande Terre ou à déployer sur les îles. Le premier corridor sanitaire s'est donc déroulé hier matin à destination d'Ouvéa via un avion d'Air Calédonie. Cette rotation qui s'est déroulée grâce à une collaboration étroite avec la province des îles Loyautés, la mairie d'Ouvéa et les autorités coutumières a permis d'acheminer vers Ouvéa une infirmière et au retour, l'avion a transporté 50 patients, 6 personnels de santé, dont l'équipe de l'Ordre de Malte appelée à poursuivre sa mission de renfort sanitaire en province nord, mais aussi 2 caisses d'analyse biologique. D'autres opérations de ce type seront organisées au cours de la semaine prochaine. Dans un communiqué, le gouvernement tient à préciser que ce corridor sanitaire ne se substitue en aucun cas aux évacuations sanitaires et qu'il a pour seul objectif de garantir, dans les circonstances actuelles, l'accès aux soins pour l'ensemble de la population et la continuité des prises en charge, en particulier pour les patients identifiés comme prioritaires par les équipes médicales.
Actualité culturelle à Nouméa, les rendez-vous La Rochâteau ont fait leur grand retour. Ce samedi au Château Hagen, plusieurs ateliers étaient proposés autour de la poésie, notamment pour les plus jeunes, avec Bricks for Kids, comprenez des Lego pour enfants. Elodie était l'animatrice de cet atelier hier.
Donc ce sont des ateliers créatifs Lego. Voilà, sur le thème de la poésie, de la danse, construction motorisée, 3D, pixel art, et même de l'imaginaire. Je vois la poésie comme le côté romantique avec l'amour, le voyage au travers de la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Donc j'ai ressorti un peu tous ces modèles-là.
Libre à chacun d'avoir l'interprétation qu'il souhaite y donner.
Oui, voilà, arc-en-ciel, les fées, peu importe la couleur, le soleil, tant que ça parle à notre cœur comme le fait la poésie.
Et par ailleurs, un spectacle était proposé toujours sur le thème de la poésie jusqu'à 20h. Les jeux sont faits, le festival Nouméa Poker Series s'est achevé hier soir au Grand Casino de Nouméa. Rendez-vous qui a su trouver son public, Michael Geneski.
Il était même attendu, plusieurs semaines en amont avec des tournois satellites organisés et en point d'orgue, le grand festival de poker en Nouvelle-Calédonie depuis le 14 mars dernier. Un tel événement n'avait plus eu lieu depuis la période d'avant Covid-19. C'est dire si les quelques 200 participants ont apprécié d'être autour des tables. Une quinzaine d'étrangers, australiens, japonais ou américains avaient même fait le déplacement.
C'est un festival exceptionnel. On est surpris du nombre de personnes qui est venu. On est arrivé à 185 inscriptions, ce qui fait monter ce qu'on appelle un prize pool, la caisse à plus de 17 760 000 qui vont être répartis sur 21 joueurs. Franchement, bien organisé, les gens sont satisfaits et heureux. On a fait un super festival et on a passé une semaine de folie.
Ça a été un très bel événement. Je viens d'Australie pour y participer et je suis encore engagé dans la finale, donc ça fait très plaisir. Le niveau calédonien est fort. C'est une belle place, une place forte et je suis heureux d'être ici.
180 joueurs, un très très beau tournoi, très bien organisé. Un très beau prize pool qui fait un peu rêver. Il y a des joueurs internationaux, on se mélange un peu avec tout le monde, c'est sympa. Ça fait plaisir d'affronter des vrais joueurs de poker. De faire partie de l'aventure du casino, c'est bien qu'ils refassent ce magnifique tournoi.
Les casinos de Nouméa ont l'ambition d'attirer encore plus de joueurs internationaux lors des prochaines éditions de ce festival. Céline Sarrazin est responsable marketing des casinos de Nouméa.
Très beau retour, on est très content du succès du festival qui n'avait pas été organisé du coup depuis le Covid. Là, tous les joueurs sont ravis de se retrouver, de se rassembler, de jouer ensemble. Ce qui ressort beaucoup aussi de nos joueurs internationaux, notamment, ils ont eu tous plaisir à découvrir la Nouvelle-Calédonie, qui était l'objectif un peu de ce festival international. Ils ont été tous enchantés de leur visite chez nous. Donc, on a vraiment l'ambition d'attirer de plus en plus de joueurs internationaux sur les prochaines éditions, notamment des joueurs qui sont venus cette année et qui nous ont déjà dit que dans leur réseau, beaucoup avaient émis la volonté de venir sur les prochaines éditions. Donc, on est très confiants pour le prochain festival que les casinos de Nouméa organiseront.
Un tournoi qui s'est donc achevé hier soir après 8 jours de poker non-stop, sans oublier les tournois secondaires pour combler d'autant plus les amateurs de la discipline.
Allez, direction à présent la place de la mairie de Farino qui accueille aujourd'hui la première fête du jardin de l'année. Écoutez les précisions de Ghislaine Arly, responsable de l'organisation.
On demande à nos visiteurs de venir nous rendre visite et puis ce sera l'occasion de venir se détendre après avoir voté ou avant de voter, de venir faire un petit tour pour admirer ces belles plantes. Alors comme d'habitude, lorsque l'on fait des fêtes du jardin, ce sont des plantes de saison. Généralement, les gens essaient de vendre les plantes quand ils sont en fleurs. Hein. Donc en ce moment, il y a toujours des plantes tropicales en fleurs. Il y a encore des bougainvilliers. Puis même ça recommence à fleurir parce que bientôt, on aura le printemps. Il y a beaucoup de plantes vertes, toujours à des prix très compétitifs. On a les femmes de Saramea notamment qui nous font de magnifiques plantes pas chères du tout. Ensuite, on aura toujours des plantes endémiques. On a toujours des personnes qui vendent des petits arbres que l'on trouve là partout chez nous, qu'on arrache, qu'on met en pot et puis qu'on peut vendre. Donc c'est toujours très agréable d'avoir des plantes d'ici, des arbres d'ici notamment. On aura des palmiers, bien sûr. On a toujours certaines pépinières de palmiers qui viennent. Et on aura toutes sortes de merveilles à admirer et bien sûr à acheter à nos exposants.
La première fête du jardin de l'année, c'est jusqu'à midi et c'est sur la place de la mairie de Farino. Il est 7h12, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Le salon Toyota 2026, du 27 au 29 mars à la Maison des Artisans. Venez découvrir la gamme Toyota et le tout nouveau Toyota RAV4. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs, mais aussi sur les véhicules d'occasion. Alors rendez-vous du 27 au 29 mars à la Maison des Artisans. Et le salon Toyota, c'est aussi chez Normand Torsconnet. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end. Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Lionel Sabot.
Et à l'étranger d'abord, l'actualité dominée pas ce matin encore par la guerre au Moyen-Orient qui est entrée dans sa quatrième semaine. Il y a trois semaines, les armées israéliennes et américaines opéraient leur première frappe sur l'Iran, le régime des Mollahs qui avait aussitôt répliqué sur Israël, mais aussi sur l'ensemble des pays du Golfe. Une guerre qui est loin de marquer le pas. Ces dernières heures, Téhéran a visé la base américaine de Diego Garcia, c'est en plein océan Indien. De son côté, de ça, elle a ciblé le site nucléaire de Natanz. Et il y a un peu plus d'une heure maintenant, c'est un missile iranien qui a visé la ville de Dimona. C'est dans le désert du Negev, en Israël. Site très symbolique, puisque c'est à Dimona qu'Israël, dans les années 60, avait installé son tout premier centre de recherche nucléaire. Cette frappe iranienne a fait une quarantaine de blessés. Frédéric Simon pour Europe 1.
Les capacités nucléaires des belligérants sont en effet pris pour cible. L'aviation américaine a bombardé la centrale de Natanz, l'un des principaux centres d'enrichissement d'uranium dont dispose le régime iranien. Il avait déjà été sérieusement endommagé en juin dernier lorsque les États-Unis s'étaient joints aux opérations menées par Israël contre le programme nucléaire de la République islamique. Les médias officiels en Iran affirment que l'aviation israélienne a mené les raids sur Natanz. Aujourd'hui, information démentie par les autorités israéliennes. C'est d'ailleurs essentiellement le sud du territoire israélien qui a été pris pour cible par les missiles iraniens en début de soirée et plus précisément le secteur de Dibona où plus de 20 personnes ont été légèrement blessées. Or, c'est à proximité de cette localité que se situe la principale centrale nucléaire du pays. Plus tôt dans la journée, l'un des projectiles lancés par un missile à fragmentation s'était abattu sur une maternelle vide, fort heureusement, de la banlieue sud de Tel Aviv. Et selon les données fournies par l'armée israélienne, 70% des missiles tirés par l'Iran ces derniers jours étaient équipés d'ogives à fragmentation. Le régime des Mollahs dispose par ailleurs de missiles d'une portée plus longue que ce qui a été connu jusque-là, capable d'atteindre jusqu'à l'océan Indien, puisqu'une base militaire américaine canon-britannique situé dans cette zone, celle de Diego Garcia, a été visée par l'Iran aujourd'hui.
Frédéric Simon, le correspondant permanent d'Europe 1 en Israël. Parmi les conséquences de cette guerre au Moyen-Orient, vous le savez, le trafic maritime qui est à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz. Cette nuit pour nous, 20 pays dont la France et le Royaume-Uni, mais aussi le Japon, se sont dit prêts à participer aux efforts pour rétablir la circulation dans ce détroit. Écoutez à ce sujet le général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales.
Le détroit d'Ormuz, ça peut se libérer de deux façons, par la force, et ça, il n'y a que les Américains qui le feront, les autres ne se mêleront pas d'une opération par la force, ou par la diplomatie, et là, il faut joindre toutes les bonnes volontés, et il y en a beaucoup, pour convaincre les Iraniens de ne pas attaquer les bateaux qui viendraient dans le détroit d'Ormuz. C'est une démarche diplomatique. On sait que la Chine a pris contact avec la France pour travailler au Conseil de sécurité, pour avoir une résolution. Ce qui serait un premier pas intéressant, sachant que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et la Chine sont intéressés à cette liberté de naviguer dans le détroit d'Ormuz et que la Russie pourrait être convaincue.
Le général Dominique Trinquant, invité ce matin d'Europe 1 Week-end. Venons-en à l'actualité en métropole. Les plus d'une cinquantaine de parents et d'enfants qui sont rassemblés la nuit dernière pour nous devant la mairie de Paris. Rassemblement à l'appel de l'association MeToo École pour mettre fin à l'omerta sur les violences sexuelles dans le périscolaire à Paris. Ces derniers jours, trois hommes, deux animateurs et le mari d'une institutrice ont été arrêtés pour agression sexuelle sur 12 enfants. Des familles en colère qui demandent des actes de la part des autorités compétentes. Caroline Baudry pour Europe 1.
Comme cette maman qui raconte être venue poser des cartables au sol ce matin. Il représente tous ses enfants qui auraient dû être protégés, comme sa fille, 4 ans au moment des faits, pour qui elle réclame justice aujourd'hui.
Les deux agents masculins qui étaient donc cités pour des violences sexuelles, il y en a une pour laquelle l'affaire a été classée sans suite. Il est suspendu, interdit de travailler Paris intramuros. Il peut traverser le périph et travailler ailleurs. Il y en a une pour laquelle son jugement aura lieu au mois de mai et nous espérons sincèrement qu'il y ait une vraie condamnation à la hauteur des dégâts.
Selon elle, une dizaine de victimes est reconnue rien que dans l'école de sa fille du 11e arrondissement de la capitale. Mais la vague de témoignages de tout petits continue de déferler selon Maître Taïeb, avocate. Elle porte conseil au mouvement MeToo École et défend plus d'une quinzaine de familles concernées.
Et là, aujourd'hui, on nous dit « Ah bah oui, mais promis, là maintenant, on va former le personnel encadrant. » Mais enfin, c'est pas la base. On va vérifier leur casier judiciaire. C'est pas la base. On va les déplacer et on va les suspendre. Quand il y a une accusation grave, personne ne pouvait s'attendre à ce que ce ne soit pas déjà le cas. Il faudrait un audit global, il faudrait une commission parlementaire, il faudrait vraiment changer la loi.
Et maintenir la pression, poursuit-elle, pour qu'un simple principe de précaution soit appliqué systématiquement, alors que les enquêtes voient difficilement le jour, que les portes restent fermées et que personne n'assume une responsabilité. Fin de citation.
Caroline Baudry du service Société d'Europe 1. Et puis avant de marquer une dernière pause dans ce journal, revenons sur les élections municipales. La campagne aura été marquée par l'utilisation intensive des outils d'intelligence artificielle. Alors les candidats s'en sont servis évidemment pour leur communication. Côté électeur, l'IA aura été pour certains une aide pour faire un choix avant d'aller voter. Un usage qui n'est pas encore totalement encadré et qui sera désormais incontournable lors des prochains scrutins électoraux. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Mettre en forme un programme, communiquer plus efficacement, surtout quand vous êtes candidat pour la première fois avec peu de moyens, les outils d'intelligence artificielle ont été une vraie aide, a pu constater Paul Brunet, président de l'agence de communication politique 2-4, qui a accompagné une soixantaine de candidats.
On a une campagne où le candidat a beaucoup utilisé des vidéos, où il a modélisé en fait le développement de ses grands projets d'infrastructure dans la ville. C'est des vidéos qui ont été très vues dans la ville. Et donc c'est sûr qu'à l'époque où il fallait payer des milliers d'euros des cabinets de modélisation 3D pour avoir ce résultat, aujourd'hui ça vous coûte 20 euros avec une IA généraliste.
Des usages très positif également relevé par Martin Pavanello, président de la start-up Mister IA. Mais attention, cela peut aussi être une arme à double tranchant.
Ça s'est vu chez certains candidats que l'utilisation de l'IA n'avait pas été vérifiée et donc on perd vite en crédibilité. On a eu le cas sur des estimations de coûts, notamment je veux créer un complexe sportif. Bon, bah, j'ai fait toute une simulation avec de l'IA, oui, sauf que l'IA elle se base sur des prix plutôt américains. Et donc ça n'a rien à voir avec ma commune de 10 000 habitants en Auvergne.
D'où la nécessité d'être formé aux bonnes pratiques, aux bonnes manières d'utiliser l'IA, qui sera sans aucun doute au cœur de l'élection présidentielle de 2027.
Aurélien Fleureau du service politique d'Europe 1. Il est 7h20. Une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive.
RRB, élection municipale 2026. Dimanche 22 mars, suivez le second tour des élections municipales 2026 sur Radio Rythme Bleu.
11h, 16h, les points de participation. Dès 18h30, les résultats bureau par bureau, commune par commune.
Avec aussi les réactions, les analyses et la participation de notre consultant Ismet Kurtovic.
Une soirée spéciale à suivre également en Facebook Live et sur rrb.nc.
Les municipales 2026, à vivre sur RRB pour être les premiers et les mieux informés.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Weekend avec l'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Eh ben, on va commencer, si vous le voulez bien, avec du rugby, puisque c'était ce week-end la reprise du top 14 après le tournoi Destination.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14. À vos côtés, sur le terrain, comme dans la vie.
La 19e journée du championnat de France élite qui a déjà livré son lot de sensations, Michael Geneschi.
Oui, avec tout d'abord la victoire de Montpellier sur le terrain de Clermont sur le score très serré de 20-17. Les Montpellierains, pourtant en infériorité numérique, ont frappé un grand coup et grimpent ainsi provisoirement à la 2e place du classement. Autre performance importante aujourd'hui, le Racing 92 qui s'est replacé idéalement aux portes du top 6 grâce à son succès face à Castres 52-21. Pourtant, la tâche n'a pas été facile, reconnaît l'entraîneur des Racing Men, Patrice Colazzo.
On s'est retrouvés collectivement. On a généré une énergie collective sur des choses hyper simples, hyper basiques. Et le rugby peut être très simple. Voilà. Mais j'ai envie de dire qu'on a surtout on s'est retrouvé en ordre de marche collectif.
Allez, encore des résultats. Le Stade français qui l'a emporté sur les terres du RC Toulon 46-27. Et puis dans un duel de mal classé, Bayonne a étrié la lanterne rouge Montauban 60-26. Enfin, Lyon s'est imposé sur Perpignan 32-28. En ce moment même, La Rochelle affronte la section paloise. Et puis demain, autre grand duel attendu, l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, qui fera face au Stade toulousain.
Et sur les terrains de football, on joue la suite de la 27e journée du championnat de France de Ligue 1.
Avec déjà une victoire de Toulouse sur Lorient, sur la plus petite des marques, 1-0. De son côté, Auxerre, toujours en difficulté dans le tableau, a battu Brest 3-0. Les Auxerrois sont pour le moment 16e. En ce moment même, le PSG tente de reprendre la première place de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui est sur le terrain de Nice pour le compte de cette 27e journée. Après avoir été dépassé, on le rappelle hier, par le RC Lens en tête du classement. On joue depuis une quinzaine de minutes. Le score est toujours de 0-0 dans ce Nice-PSG.
En cyclisme, Tadej Pogacar décroche une victoire de prestige sur le Milan San Remo.
Un succès magistral pour le Slovène. Il s'est en effet imposé pour la première fois de sa carrière sur cette épreuve alors qu'il avait chuté durant la course, entraînant d'ailleurs plusieurs coureurs avec lui avant de repartir de plus belle pour aller chercher cette victoire héroïque. Il l'a emporté au sprint devant le Britannique Tom Pidcock et le Belge Wout van Aert qui complète le podium. C'est le 11e monument que gagne le cannibale slovène.
Mais sur deux roues toujours, mais avec un moteur cette voici, ça s'appelle de la MotoGP, la pluie qui a perturbé le déroulement du Grand Prix du Brésil.
En effet, la Sprint Race qui a dû être retardée à plusieurs reprises ce dimanche en raison des intempéries et surtout des travaux qui ont dû être menés en urgence. En effet, les fortes pluies ont tout simplement fait un trou dans la piste, dans la ligne droite principale à cause d'un affaissement du terrain. Les équipes techniques qui ont joué à leur tour la course contre la montre pour remettre au plus vite le circuit en état. On retiendra en tout cas sur la Sprint Race, la victoire de Marc Marquez, là où le français Fabio Quartararo s'est classé 6e pour marquer des points précieux au championnat. Johan Zarco, l'autre tricolore, a malheureusement chuté lors des qualifications qui avaient pu se disputer auparavant sur piste sèche. L'italien Fabio Di Gianantonio avait décroché la pole position alors que Fabio Quartararo s'était classé 4e. Johan Zarco avait lui signé le 10e temps de référence.
En Coupe du Monde de biathlon, Éric Perrault et Lou Jean Monod décrochent deux nouveaux globes de cristal.
On n'arrête plus les biathlètes tricolore au lendemain de la conquête du gros globe de cristal d'Éric Perrault, tout comme Lou Jean Monod la veille. La dernière étape du circuit mondial se poursuivait à Oslo, en Norvège. La poursuite féminine a été remportée par Anna Åberg devant Julia Simon, tandis que Lou Jean Monod, 4e, a donc décroché le petit globe de la spécialité. Et chez les messieurs, Éric Perrault a lui terminé 2e pour lui aussi décrocher le petit globe de la spécialité. Place demain aux dernières épreuves de la saison, les deux dernières courses, les Mastart féminine et masculine.
Et puis le sport en Calédonie, Mickaël, il y avait du basket hier avec le challenge Benjamin.
Ouais, ça se passait au Mondor, la compétition qui permet aux jeunes basketteurs de prendre part à des défis individuels. Sean Sion de l'AS d'Imbéa a terminé en tête chez les garçons et Leila Vivanlang de VKP s'est imposée chez les féminines. Les finales nationales se dérouleront les 24 et 25 avril prochains en métropole. Et puis, on jouait aussi la Foot Golf League Fairy Tale sur les greens de d'Imbéa dans le tournoi en simple. C'est le président du Point Boot Sporting Club, Valérian Hummels, qui s'est imposé devant Christophe Robert et Dominique Gouet.
Merci, Mickaël. On termine ce journal avec la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Thierry, et on va pas se le cacher, hein, ça va se dégrader dans les heures qui viennent.
Oui, et on va parler de cette vigilance jaune pour de fortes pluies et des orages. C'est un risque d'averses orageuses aujourd'hui et la nuit prochaine sur Belle-Epo, Mouégoua, la côte est de Pueblo Ayaté, ainsi que sur les Loyautés, le Mont-d'Or et l'île des Pins. Ce matin, ciel très nuageux à couvert sur l'ensemble du territoire, les averses seront rares sur l'ouest, plus fréquentes ailleurs et localement soutenues, voire orageuses. Le vent est à nord-est par l'orientation, 5 à 10 nœuds, voire 10 à 15 nœuds aux extrémités de la Grande Terre et aux Loyautés. L'ouest la reste localement abrité. Cet après-midi, le ciel reste chargé. Sur l'ouest, des averses venues du relief déborderont par endroits. Elles seront parfois plus marquées. Des Loyautés à la pointe sud, des averses modérées à localement fortes circuleront encore et le tonnerre pourra se faire entendre. Elles seront plus éparses et plus faibles ailleurs. Le vent est-sud-est pour cet après-midi. 5 à 10 nœuds aux Loyautés. Il reste orienté au nord-est et les températures, elles, 29 à 32 degrés en général. Et ça va monter jusqu'à 33 à 34 degrés sur l'ouest lyonnais.
Merci Thierry. Il est 7h26, c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.